eh bien, nous restons vraiment dans le monde de Marc en écoutant maintenant Patrick Dondré, qui va nous parler de Marc Fumaroli, lecteur de La Fontaine. Donc, il est doublement dans son sujet. Un lecteur de La Fontaine parle d'un autre lecteur de La Fontaine. On se parle entre lecteurs de La Fontaine.
Et qui plus est, j'en parle l'année du quatrième centenaire de la mort de La Fontaine, de la naissance de La Fontaine. Ça me rappelle la part qu'avait prise Marc Fumaroli en pilotant le tricentenaire de la mort, puisque nous aurons connu ces deux éléments. Alors je voudrais commencer en disant que rien de prime abord n'appelait Marc Fumaroli à rencontrer La Fontaine et à en faire un de ses dieux. Sa préférence pour Corneille et l'inscription initiale de sa thèse d'État sur le sujet de l'art oratoire des héros cornéliens, bientôt dérivée en une recherche pionnière sur l'âge de l'éloquence, arrêté au seuil de l'époque classique, l'orientait vers la première moitié du XVIIe siècle et sa charnière avec la Renaissance. C'est pourquoi, dans le précis de littérature française du XVIIe siècle dirigé par Jean Ménard en 1990, lui fut confié le premier chapitre, 1594-1630, sous le signe de Protée. Et ce chapitre demeure sans doute l'introduction la plus originale, la plus étincelante et percutante qu'on puisse lire sur l'aurore du grand siècle. Il me répliqua par cette boutade un jour que je lui vantais Racine. « Racine, non, non, c'est la vie, Racine, c'est atroce. Non, Corneille, Corneille, l'idéal !» Et pourtant, sans que personne le sût, cette prévention le mettait déjà en consonance avec l'âme profonde de La Fontaine, dont un témoignage, peut-être suspect, et une confidence, il est vrai, sibylline, nous suggère ce qu'en tout cas la lecture de son œuvre nous confirme, que la pente première de son inspiration portait le futur fabuliste à l'héroïsme et au grand style, qu'il ne s'en guérit que contraint par le goût de son temps, la pente de sa carrière et la dictée de son génie, et qu'il trouva dans les héros dont Ésope est le père le biais pour satisfaire aux contingences de sa vie et de son temps sans renoncer tout à fait à ses dilections intimes. Entré chez Fouquet, il y fit sur commande de petits vers, mais leur insuffla un grand essor. Or, il y eut de cela dans la rencontre de Marc Fumaroli avec l'œuvre de La Fontaine, puisque c'est une commande aussi, et institutionnelle, qu'il l'y conduisit, celle d'une édition des fables pour la prestigieuse collection Lettres françaises de l'Imprimerie nationale, dirigée par Pierre-Georges Castex. Il en dédia d'ailleurs les deux volumes à la mémoire de Raymond Picard, dont le nom impose le souvenir de Racine, cousin du fabuliste. Il y avait là comme une façon de conversion esthétique. Peut-être le savant éditeur a-t-il projeté ce décalage fructueux dans la plus risquée des assertions que délivre en son dernier décours la somptueuse et copieuse préface dont il a orné cette édition. Aussi doit-on croire, écrit-il à propos de La Fontaine fabuliste, que pour ce poète alexandrin, ennemi de toute discipline imposée et à tous égards déplacé sous Louis XIV, l'apologue ésopique a été l'os de sèche, peu fait pour lui, mais où il a dû aiguiser son art pour lui faire place reconnue dans les belles lettres du règne. Sans doute est-il abusif de poser que l'intuition de cette contradiction entre La Fontaine et la fable ésopique constitue le fil directeur du propos introduisant l'édition Fumaroli des fables, mais que ce soit le secret et le ressort d'une tension qui guide l'exposé et qui vertèbre l'analyse du préfacier, on le croirait volontiers. Débordante de science, associant le détail précisément composé de la mosaïque aux larges visions de la fresque, cette introduction s'articule fermement en deux volets, un cadastre du contexte suivi d'une analyse du texte. On pourrait deviner la forte opposition qui parcourait déjà l'âge de l'éloquence dans le partage qu'opère la présentation du projet esthétique des fables entre, d'un côté, les exigences rigoureuses de l'esprit gallican et janséniste, moral, épris de rigueur, de brièveté, rivé à la rudesse austère de la prose, et puis, de l'autre, l'alexandrinisme qui régnait sur les premiers écrits du poète, le souvenir des latins du siècle d'Auguste, au premier chef Horace et Ovide, l'élégance gracieuse de l'un, l'imagination fleurie de l'autre. L'analyse révèle ainsi au sein des fables le dialogue entre ces deux génies esthétiques et éthiques, ou si l'on préfère, entre les deux faces du même, qui se nouent et s'associent parfois, se distribuent, se réunissent et inspirent à l'analyste d'insolentes et fulgurantes intuitions sur leurs accords discordants, comme celui de l'épicurisme et de l'augustinisme qui, écrit-il, se liguent tout en se combattant pour donner de l'homme une vue moins ambitieuse que celle des grands genres. S'y fait jour déjà l'intuition qui sous-tendrait le poète et le roi, qu'après la chute de Fouquet, je cite, « La Fontaine ne fut par la suite jamais plus chez lui, dans son siècle à la fois trop monumental et trop persévérant dans la grandeur. » D'où son choix d'un genre qui, d'os de sèche, devient sous la plume alerte du préfacier la Cendrillon des belles-lettres. Alors cette image-ci portait en elle la promesse d'une métamorphose qui trouve son expression dans une intuition et une formulation hardie et pénétrante, celle d'une tension, puis d'une opposition qui serait allée croissant chez l'Ésope français de recueil en recueil entre le conteur et le fabuliste, entre le conte et l'apologue. Qu'entendre par là ? Eh bien que la liberté d'allure, de ton, de jugement du moi qui compte, assumant la menée et l'émotion de son propos, de sa fable, exprimerait sa distance toujours accrue par rapport au « on » du fabuliste, par rapport à l'indifférence inhérente au ton de l'apologue, conformiste, plat et dru. Discrète dans le premier recueil de 1668, où elle est essayée surtout dans les fables en forme d'épîtres liminaires qui ouvrent chaque livre, Marc Fumarly voit cette tendance à la scission s'accroître dans celui de 1678-79, où se libère et prospère, je cite, « l'invention du conteur au détriment de l'imitation du fabuliste ». Le premier interpose l'infléchissement de son charme entre le lecteur et le constat impitoyable porté par la mémoire amère de la tradition ésopique mise en voie par le second. Le charme de ce ton permet, en la voilant de poésie, de rendre supportable la réalité brutale et brutalement dévoilée par le genre, celle de la noirceur naturelle de la nature humaine. De cette intuition découlaient deux propositions. D'abord que, le temps passant et l'expérience approfondissant, la fable sera devenue toujours davantage pour La Fontaine, de moins en moins fabuliste, de plus en plus conteur et poète, un fil conducteur ou un prétexte pour narrer et songer, délecter et faire penser en donnant à songer. Au point que le 12e et dernier livre, celui de l'extrême maturité, Livre-Testament, point suprême d'une spirale, écrit Marc Fumarly, où il aura déposé le trésor de son art et de ses convictions profondes, fera éclater l'apologue prétexte en un ultime feu d'artifice, par l'accueil en son sein, on le sait, de contes mythologiques, comme pour signe que la fable est élargie, et je cite à nouveau, à l'universalité des genres du récit, à la fable, avec majuscule, à l'instar de ces anthologies bigarrées de la Renaissance qui inscrivent l'apologue ésopique parmi les facettes du miroir biseauté où il capte l'encyclie de la nature et de la culture. Ce sera l'accomplissement d'une transfiguration esthétique qui avait débuté avec la contamination de l'apologue par l'épître, par l'ode horacienne, l'épopée, la comédie, l'idylle, le récit mythologique ou le madrigal, avant que ne s'accomplisse sa transmutation définitive en creuset pour la fusion de toutes les formes poétiques connues depuis Marot. Cet écuménisme se devine dans une autre proposition tirée à la fois de la contextualisation historique et de l'analyse esthétique, où se découvre sans doute quelque chose de la sensibilité personnelle de l'analyste réverbérée par son propos, lequel avoue à voix murmurée une nostalgie peut-être personnelle. C'est l'idée que la complicité du sourire enjoué ou ironique, l'effet de conversation produit par la musique des vers capricieusement irréguliers, le partage des saveurs et des valeurs, la communauté des goûts et des dégoûts communiant dans le conte, supposait un cercle d'amitié et de connivence, un cercle privilégié, tracé par le pointillé des noms lisibles en transparence du texte, ou émergeant dans les dédicaces et les éloges, comme pour faire front contre les horreurs de la réalité découvertes par l'apologue et rédimées par la manière de le conter. Ce terme de cercle, plusieurs fois revenu dans l'étude, résonne de protection, d'union, de partage et de compensation. Dans le 12e livre des fables, selon Marc Fumaroli, je cite le cercle du conteur comme pour conjurer la noirceur d'un monde ravagé par l'incurable répétition des sottises et des crimes. Je crois vraiment qu'il pensait à notre monde, hein, se resserre plus que jamais dans la confiance d'être choisis, protecteurs ou amis du poète. Qu'il s'agisse d'anciens familiers du salon La Sablière ou de nouveaux fidèles réunis autour de Fénelon, ils évoquent, à bien des années de distance, le groupe des jeunes palatins durant les années de formation du poète ou un peu plus tard, les familiers de la cour de Fouquet. Cette pente vers une esthétique et une historiographie de l'amitié se manifeste dans nombre de sujets de prédilection traités par Marc. Les académies, la conversation, les salons, l'honnête homme, le mythe arcadien même, autant de thélèmes de l'esprit et du cœur. Le hasard a voulu que l'édition des fables donnât à Colette Prieur, désireuse à la même époque de voir se fonder une société des amis du poète dont elle conservait la maison natale, l'idée de s'adresser au tout nouvel académicien français. Il accepta généreusement la charge de présider cette petite académie et la Fondation s'enfit sous les auspices de l'amitié dans le salon de Christiane Picard en 1987. La revue appelait à devenir l'organe de cette association aurait pour tâche notamment de publier le colloque qui, tous les 3 ans, réunirait les Lafontainiens de France et d'ailleurs autour de l'œuvre du poète. Et c'est Marc Fumaroli qui choisit le nom de cette publication, préférant au fabuliste que j'avais suggéré, celui de fablier, parce que nous dit-il, et je crois qu'on l'y reconnaîtra, il aborderait les suffixes en « ist » et en « isme ». Il assigna pour thème, au colloque fondateur de juin 89, La Fontaine et la tradition européenne de la fable. Après quelques autres rencontres, tournant notamment autour de La Fontaine avant et pendant ses années Fouquet, après le colloque du tricentenaire que j'évoquais tout à l'heure, de 95, en forme de bilan et synthèse, le sujet retenu pour la rencontre inaugurale devait être à la fois redoublé et précisé en 2001 par un autre colloque réuni à l'Institut de France qui porta plus précisément sur La Fontaine et l'héritage de l'Europe humaniste. Eh bien, je dégagerai ces deux intitulés parce que il faisait écho à l'autre composante notable de l'édition Fumaroli des fables à laquelle je reviens, une étude, à tout point de vue, vraiment considérable, de taille monographique sur La Fontaine et la tradition humaniste de l'apologue ésopique. Tradition qui était présentée comme la préhistoire savante d'un genre que son chef-d'œuvre résume et abolit. Il s'agissait, à dire vrai, d'une préhistoire réduite par la force des choses et l'évidence de la réalité à cette renaissance dont La Fontaine, écrivait Marc Fumaroli, est et se sait avant tout le fils. C'était une des grandes idées de nous avoir montré combien La Fontaine se rattachait au siècle qui l'avait précédé. Une des grandes idées que Marc nous a apportées. D'ailleurs, son immense culture de l'humanisme, en particulier italien, permettait au préfacier, grâce à son extraordinaire capacité de conférer vie, épaisseur, couleur et cohérence aux données les plus apparemment froides de l'érudition, de faire jaillir un bilan à la fois visionnaire et nuancé, vigoureux et fourmillant d'éclatants à propos sur les antécédents humanistes de l'esthétique et de la pratique lafontainienne de la fable. Non que ces textes ne fussent déjà connus, mais leur disposition et leur position repensée, leurs relations et leurs accointances révélées, déterminaient dans le ciel du savoir et du goût des galaxies et des influences dessinant une cosmologie nouvelle et puissante. Pour montrer comment La Fontaine porta l'humble apologue à la dignité d'un genre sapiential, en même temps qu'enjoué et rayonnant d'une grâce exquise, le préfacier a réuni autour de ce berceau les faits qui contribuèrent à cette métamorphose. Abstemius, qui orna la fable ésopique de cette urbanité souriante propre à la délectation des honnêtes gens. L'édition des Aldes, qui suggéra son lien avec la Prisca Theologia en l'associant aux gens anciens de l'image. Boccace, zélateur de la fiction qui s'est mené par la traverse au vrai et à la sagesse. Erasme, dont les avadages, avant-coureur des essais de Montaigne, maniaient le ton de la conversation familière enseignant l'art prudent de conduire sa vie. Faerne, dont le recueil de fables à l'antique publié sous le patronage de Paul IV, joyau de l'académisme néo-latin de la cour romaine, réhabilite le genre en le portant, comme celle du Vénitien Verdizzotti, au fait de la pensée morale, politique et économique, au sens ancien du terme. Chez les Français, une fois écarté d'un geste de main corrosé et aux dents, dont l'humilité d'ambition les rend, selon le préfacier un peu rapide, indignes d'être tenus pour inspirateurs de La Fontaine, il ne les aimait pas, il les a chassés. C'était son aristocratisme. Une fois donc cela écarté, c'est l'édition Estienne, pendant de l'édition Aldine à Venise, qui annonce l'inspiration qui sera insufflée au genre de ce côté des monts. La saveur ironique et joyeuse de Marot, qui libère la poésie de la double hypothèque médiévale, celle des grands rhétoriteurs, et Savante, qui illustrera bientôt la Pléiade. Et puis, son prolongement, par l'humanisme gallican et parlementaire, j'en parlais tout à l'heure, qui allait constituer la matière ésopique, en parallèle à la satire Ménippée, en pôle profane et civil d'une culture humaniste et chrétienne dont le psaume est le pôle dévot et religieux. C'est dans ce cadre de pensée et d'émotion que Marc Fumaroli place la redécouverte par deux Champenois, Pitou puis Rigaud, de deux manuscrits des fables de Phèdre jusqu'alors perdus, et dont l'édition et la traduction française, quelques décennies plus tard par le maître de Sacy, à destination des écoles de Port-Royal, inspirera directement La Fontaine. Cette, je cite, « réinvention champenoise du genre » constitue, selon le préfacier, le chaînon manquant pour une apologétique du genre qui trouvera son riche accomplissement éditorial à l'initiative d'un petit-neveu de Pierre Pitou, Isaac Nevelet. On aura reconnu, à ce trop bref aperçu, le talent très identifiant de Marc Fumaroli pour révéler et nouer des rapports fondés en écriture, en compagnonnage ou en société, entre des livres, des milieux, des inspirations, supposant des communautés d'esprit, des thèmes d'acquaintance ou d'amitié qui vivaient et prospéraient dans son panthéon de chercheurs et de lecteurs. Fulgurantes, les dernières pages de cette étude osaient inscrire au titre de la tradition parlementaire Nicolas Fouquet lui-même, mécène quasi-médicéen de l'art et des lettres françaises, dans le prolongement de la veine humaniste et gallicane de l'apologue ésopique francisé, dont, je cite, l'apparition tout aussi inattendue et merveilleuse d'un grand poète de la fable comme La Fontaine devait constituer l'aboutissement éblouissant. Et puis voici que surgissent, inattendus et suggestifs, les noms conjoints d'Olugel et ses nuits attiques, de Philostrate et ses images, pour la vocation de leurs œuvres à résumer un monde de culture par la juxtaposition apparemment capricieuse de fragments. La relation proposée par l'édition Aldine entre ces deux ouvrages et l'apologue ésopique invite ainsi Marc Fumaroli à les voir en intercesseur sur la voie de ce genre tiers, apparenté à l'apologue, espèce de genre des genres que deviendra progressivement pour La Fontaine la fable, rapproché pour finir au bien de la Bible elle-même, ce carrefour de prose et de poésie, de genres et de styles, ce résumé de l'expérience religieuse, humaine et littéraire d'un peuple, ami de Port-Royal, je cite toujours, La Fontaine l'avait présente à l'esprit beaucoup plus qu'on ne l'a vu. Cette inflexion chrétienne fait alors alliance avec celle païenne des nuits attiques et des images, invention parmi les plus ingénieuses de la païdéia antique pour résumer et transmettre le suc de la culture, afin que de leur parallèle audacieux, fondé sur une érudition éperonnée par l'imagination, surgisse au terme de l'étude historique l'intuition sur laquelle s'était conclue la préface proprement littéraire, celle d'un usage de la fable comme miniature de toute culture et de toute sagesse. Ces fulgurations de pensée, confirmées par des lectures d'orbes immenses, sont peut-être la part la plus attachante de l'œuvre de Marc Fumaroli et jusque dans leurs audaces vertigineuses, qui trouvent toujours quelques piles savantes pour soutenir le tablier du pont reliant avec superbe des rives éloignées. Le fablier lui servit à tester certaines de ses intuitions, issues d'un perpétuel jaillissement de pensées, de curiosités et de découvertes, jamais taries jusqu'à la fin extrême de son existence, son dernier livre, auquel faisait allusion Antoine le prouve. On pourrait ainsi identifier des séquences ou des périodes de sa vie de chercheur plus ou moins dominées par tel ou tel intercesseur majeur. Marino, par exemple, Françoise en parlait tout à l'heure, fut l'un des plus profonds et persistants dans la quête des prophètes supposés annoncer la fontaine et éclairer la face de son génie. Dans le sillage de Gustave Michaud, puis de Françoise, Marc reprit en effet l'hypothèse de l'identifier, avec bien des arguments de poids, au certain auteur, demeuré anonyme, que La Fontaine comptait, dans sa fameuse épître à Huet, avoir pris pour son maître dans ses jeunes années, avant de s'en défier et de s'en détourner pour son trop d'éclat et de clinquant qui, écrit La Fontaine, faillit le gâter. Mais, sensible à l'éloge de plusieurs grands Italiens, dont le poète se recommandait quelques vers plus loin, l'Arioste, le Tasse, Machiavel et Boccace, Marc Fumel-Rolly voyait une raison d'y ajouter et d'ajouter à l'indéniable influence de Marino et de son utopie voluptueuse et raffinée sur l'Adonis et sur les œuvres connues de La Fontaine jusqu'au tour de 1660, une imprégnation persistante, même après que le poète eût été guéri du style concettiste de Marino. L'art de La Fontaine dans son ensemble témoignerait ainsi d'une familiarité et d'une affinité profonde avec l'imaginaire du poète italien et avec son invention, dans laquelle il n'aurait jamais cessé de puiser des fragments, des thèmes, un esprit, bien après avoir modifié son goût littéraire et sa science poétique. Ostensible, quoique voilé d'anonymat, l'affichage appuyé de sa rupture avec son modèle italien dans l'épître à Huet aurait procédé en fait du désir de cacher soigneusement ce que Marc Fumel-Rolly appelait un secret d'atelier. Le marinisme étant objet de réprobation, on le sait, dans la France du second XVIIe siècle. En somme, je dirais qu'il n'acceptait pas facilement que ses amis par le cœur et l'esprit n'eussent pas été entre eux liés de la même amitié, et c'est pourquoi La Fontaine devait aimer Marino. Et de toute façon, il ne craignait jamais de prendre des risques intellectuels, de tester des hypothèses hardies, de rompre avec les dogmes et les évidences. Les grands chercheurs doivent savoir aussi ruer dans les brancards, parce que les brancards souvent ne soulèvent que des civières. C'est ainsi qu'il se proposa pendant un temps de choisir Marino pour une des clés de voûte du grand édifice biographique qu'il allait consacrer non tant à l'existence ordinaire de La Fontaine qu'à sa vie intellectuelle, celle de son esprit, de son talent, de son inspiration. Avant de devenir le poète et le roi, dont le titre dit l'optique, cette enquête passa par diverses intercessions dont les amis de l'auteur eurent parfois la primeur des hypothèses. Il appelait, souvent le soir, parfois tard, et pendant une longue et passionnante communication qui tenait plus du monologue que de l'échange, il développait son hypothèse du moment et en quelque sorte la testait, plus d'ailleurs avec lui-même qu'avec l'autre, comme une pensée à haute voix éprouvant sa cohérence et sa force. Alors il y eut l'époque Marino, il y eut le moment de l'Arioste, et peut-être le tournant décisif fut-il la relecture de René Jasinski et de sa thèse qui originait les fables dans l'indignation suscitée par la chute et le procès de Fouquet foudroyé par Louis XIV. Je peux en témoigner et presque la dater, puisque, ayant égaré son exemplaire de La Fontaine et le premier recueil des fables de Jasinski, ou l'ayant consulté jusqu'alors en bibliothèque, Marc m'emprunta le mien. Et c'est ma très grande fierté comme une infime participation par ce prêt à la naissance du grand œuvre. Je ne m'en voudrais donc pas de ne m'avoir jamais rendu le livre. Ça faisait partie de ses gestes, tous ses amis le savent. C'était son aristocratisme et je dois avouer que j'ai un très grand plaisir à savoir que jusqu'à la fin de sa vie, mon Jasinski fut dans sa bibliothèque. Je disais grand œuvre à propos du poète et le roi, car l'ouvrage excède de très loin l'impulsion que put lui donner la thèse soutenue minutieusement et jusqu'au paradoxe par René Jasinski. Si le poète et le roi pouvaient être qualifiés de livres à thèse, l'ampleur de celle-ci et son caractère visionnaire, ainsi que la richesse et la nouveauté de son étayage historique et esthétique, porteraient le terme à la hauteur d'une vision du monde, servie par de constants bonheurs de plume qui font de la lecture du livre un enchantement d'admiration. Le postulat d'une tension jamais relâchée entre le poète et le roi à partir de l'anéantissement de Fouquet est sous-tendu par une argumentation à double face, dont l'une regarde vers une politique culturelle, la formule est dans le livre, désormais installée dans notre présent immédiat, tandis que l'autre face se tournait vers la culture allégorique forgée durant les époques antérieures au grand siècle ou immédiatement précédentes. D'un côté, La Fontaine dans Le Poète et le Roi apparaît moins en opposant qu'en dissident, un dissident courageusement dévoilé durant le procès de son mécène, puis replié sur l'intime d'une vie intérieure, d'une action d'ordre contemplatif, où son œuvre aura puisé son énergie masquée d'aménité et d'humilité. Face à la politique d'asservissement des écrivains mise en place par Chapelain, exécuteur des dessins de Colbert et premier administrateur de cet état culturel dont Marc Fumaroli avait 6 ans plus tôt élaboré le modèle intellectuel, La Fontaine est montrée comme l'incarnation d'une politique de la poésie appuyée sur une parole de vérité. De mauvais esprits auraient pu intenter à cette lecture un procès en anachronisme si elle ne trouvait non seulement sa justification, mais plus encore son origine, sa spécificité et jusqu'à sa formulation dans un ouvrage presque contemporain de la naissance du futur fabuliste, exhumé par l'infatigable découvreur de textes rares et oubliés qu'était Marc Fumaroli. Je veux parler du Parnassus Biceps de Boissat, 1627, qui célébrait l'idéal perdu à travers les noces allégoristes de Cadmus et Harmonie, scellant le pacte d'alliance entre l'Olympe et le Parnasse. L'espoir déçu d'un retour à ce règne d'Astrée, ce règne de grâce et de paix sous un roi clément, sage et loyal, divinement souverain, tel que l'avait déjà analysé la présentation du 1er XVIIe siècle dans le précis de littérature que j'évoquais au début de mon propos, a cédé la place à l'évidence affligeante du triomphe de la politique des politiques, d'inspiration machiavélienne. Cette perversion laisse à la poésie le soin de recueillir pieusement les reliques de la raison et de la vérité du cœur et d'en formuler les leçons sous le voile que lui prêtera dans l'œuvre de La Fontaine la petite fable, celle d'Ésope, substitut de la grande, dans laquelle un roi devenu lion ne veut plus communier avec ses poètes, mais recevoir l'encens de ses turiféraires. La chute de Fouquet, qui ne devint pas le nouveau mécène espéré, aura ainsi privé le nouveau Virgile de l'espoir un temps caressé que Louis XIV serait un nouvel Auguste. Cette clé de voûte, profondément calculée, puissamment étayée et artistement travaillée, permet ensuite de lancer les arcs et d'appuyer leurs courbes élégantes sur les piliers qui, depuis ses premiers travaux, soutiennent les édifices de l'esprit conçus par Marc Fumaroli, les cercles d'amitié protégés, les groupes cimentés par des sympathies de style et d'idées, une bibliothèque tout à part soi conservant ses préférences, Socrate et Épicure, l'Arioste, Montaigne, Tristan l'Ermite, Madame de Sévigné, Proust, et même au hasard d'une page, Jean Dutour. Les longues chaînes de réseaux et de filiations remontant toujours aux anciens pour comprendre les modernes, l'intériorisation des expériences douloureuses de la vie publique fusionnées par l'exercice poétique avec les données immédiates de la conscience intime pour délivrer une sagesse du quant à soi, ou encore l'alliance idéalisée entre le génie privé de la liberté et un ordre souple canalisant les violences, harmonisant les contraires et préservant les singularités, loin de la société du spectacle et de la modernité tapageuse. Une phrase citée dira peut-être mieux que toute autre analyse la richesse et la fluidité d'une pensée que le résumé durcit et déforme, mais aussi et tout autant la sympathie d'âme entre l'analyste et son patient, ou plutôt ici entre le peintre et son modèle, puisque c'est d'un portrait de La Fontaine qu'il s'agit. Inclassable, partout chez lui mais avec sa distance intérieure, ce mélancolique par situation autant que par tempérament est très en retard ou très en avance, comme on voudra, sur le gros des troupes de la France du grand siècle qui depuis 1661 marche au pas en formation régulière sous les yeux d'un roi lynx. Fin de citation. Vous l'aurez reconnu. On ne dira jamais assez quelle part le véritable historien des choses de l'esprit met de soi dans les portraits qu'il trace d'autrui. À proportion même de la rigueur historique la plus exigeante, de l'érudition la plus éblouissante, du sens de la nuance le plus raffiné, de la distance d'époque et des variations de l'esprit du temps les mieux évaluées. À croire qu'il y a toujours une part irrépressible de nostalgie par bouffée dans une science qui prend pour objet les voix chères qui se sont tues. Par tout ce qui vient d'être trop rapidement esquissé, avec pleine conscience de la déformation qu'impose la brièveté qui est l'âme des communications de colloque, on aimerait avoir au moins fait entendre qu'il y a, à n'en pas douter, un La Fontaine, deux Marc Fumaroli. Le socle de la statue qu'il lui a consacrée est bardé d'une érudition prodigieuse. Le corps en est humblement voûté, mais les yeux étincellent d'un regard qui porte large et loin. C'est que dans la silhouette qu'il lui a faite, l'intention de réalité objective a été transcendée par un effet de vérité habitée, à quoi aura contribué la part de soi-même et de ses engagements de pensée et de cœur qu'a pu y projeter le sculpteur. En avançant au début de mon propos que Marc Fumaroli avait fait de La Fontaine un de ses dieux, je citais implicitement une autre de ses dilections, Chateaubriand, qui avait écrit « Molière et La Fontaine sont mes dieux ». Du moins, lit-on cela dans une fameuse lettre de la collection Feuillet de Conches, dont on sait malheureusement que bien des pièces sont suspectes. Marc Fumaroli racontait à ce propos avoir un jour demandé à Maurice Levaillant s'il croyait la lettre authentique. « Bon, l'aurait-il répondu, depuis le temps qu'on la cite, elle le sera devenue. » Quoi qu'il en soit, on peut estimer que Chateaubriand, s'il n'a pas écrit la phrase qu'on lui prête, aurait du moins mérité de l'avoir fait, et que La Fontaine, même s'il n'a pas été en tout et pour tout exactement tel que Marc Fumaroli l'a reconstitué, aurait sans aucun doute mérité de l'être. Je vous remercie.
Merci de nous avoir restitué Marc Fumaroli, lecteur de La Fontaine. Alors, vous l'avez laissé entendre avec, je ne dirais pas perfidie, mais enfin à la fin, que le La Fontaine de Marc Fumaroli n'est peut-être pas exactement, sinon le vrai, du moins le vôtre. Mais enfin, à force de fréquenter et de lire Marc Fumaroli, lecteur de La Fontaine, c'est quand même le nôtre. Et c'est le nôtre de deux façons, d'une façon que vous avez admirablement dite, cette explication est trop lourde, cette compréhension, cette intuition de La Fontaine poète par La Fontaine amie, et de ce besoin d'une communauté de goût, d'un cercle d'amis qui n'est pas un cercle de copains, qui n'est pas une aide, un appui, qui est une aide, mais contre un monde difficile et contre un pouvoir toujours dangereux face auquel il faut toujours manifester du courage. Et c'est... on a beau ne plus être dans des régimes théoriquement despotiques, on s'aperçoit que c'est quelque chose qu'on doit toujours exiger de soi-même. Et d'autre part, ce qui pour ma part m'avait semblé l'évidence dans ce que dit Marc Fumaroli, c'est que la fable doit moins, la fable de La Fontaine, doit moins à la fable ésopique qu'à une autre traduction qui, pour moi, pauvre médiéviste avec un nom en steuiste, va de soi. C'est-à-dire que la fable ésopique au Moyen-Âge donne un genre, en français, forcé, pauvre, qui est une sorte, un genre stérile. Tandis que du côté de l'apologue, du côté de l'exemplum, du conte qu'on insère dans la prédication, du côté du fabliau, du côté du roman de Renard, il y a un foisonnement à la fois dans la matière que réutilisera La Fontaine, mais aussi dans la façon de traiter les sujets dont il fera son miel. Et vous avez parfaitement montré la façon dont Marc le montrait. Voilà. Bien. Et donc, je donne la parole à la salle. Et Laurent Pernot, qui va porter les couleurs de l'Académie des inscriptions et belles lettres dans 8 jours, à la matinée La Fontaine. Venez, mon cher, venez à ma place. Venez, oui, comme, mais venez plutôt à ma place, comme ça.
Oui, j'ai été frappé par le retour, dans les deux exposés passionnants que nous avons entendus, par le retour d'un même nom, le nom de Philostrate. Donc, Françoise Graziani en a parlé à propos de la traduction de Blaise de Vigenère qu'elle a édité, et Patrick Dandré a rappelé comment Marfi Maroli avait fait une filiation, en somme, parmi les très nombreuses filiations, entre les descriptions de Philostrate et la fable. Et ce nom de Philostrate, enfin, c'est vraiment, je crois qu'il faut lui redonner toute sa force, c'est vraiment une découverte, en quelque sorte, de Marfi Maroli. Philostrate, il y a quelques décennies, était un auteur pratiquement connu des seuls hellénistes spécialistes, et ce que l'on lisait, c'était les vies des sophistes, donc, qui étaient beaucoup discutées dans la première moitié du XXe siècle par les spécialistes de l'histoire de la sophistique, et la vie d'Apollonios de Tyane. Et donc, en revanche, les imagines, comme on les appelle, enfin, donc c'est cette description des tableaux d'une pinacothèque napolitaine, n'était pas tellement lue à l'époque, disons, dans la seconde moitié du XXe siècle. Seuls quelques spécialistes trouvaient dans l'édition Teubner le texte. Et donc, voir ce rôle donné à Philostrate, ça a été, il me semble, un acquis important, et il faut voir tout ce que ça emporte avec soi. C'est pas seulement une curiosité, c'est-à-dire la redécouverte d'un auteur grec peu connu, parce que Philostrate entraîne avec lui une époque, c'est la Grécité tardive, donc ça veut dire aussi passer par-delà les cloisonnements entre auteurs classiques et auteurs post-classiques. C'est donc montrer que l'Antiquité post-classique a joué un grand rôle par la réception qu'elle a eue. C'est-à-dire que dans la culture française qu'étudiait Fumaroli, on ne faisait peut-être pas ces barrières que l'école a élevées ensuite, au XIXe siècle, entre auteurs classiques et auteurs post-classiques. Et puis Philostrate entraîne avec lui, dans les imagines, la rhétorique, puisque la description de tableau, c'est un genre bien répertorié, l'ekphrasis, qui a ses règles et qui a ses manuels. Donc il me semble qu'en mettant l'accent sur Philostrate, là, Marc Fumaroli a mis au premier plan tout un pan de la culture antique et dans sa filiation jusqu'à l'époque moderne. C'est ça que je voulais souligner à travers les deux très belles communications que nous avons entendues.
Je ne sais pas si je réponds, si Françoise veut répondre, si elle est toujours en ligne. Non, je ne pense pas. Oui, si. Bon, parce que moi, je la vois, mais je ne sais pas si elle est sur le grand écran. Je la vois sur le petit écran. Très bien.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Bien sûr, Marc Fumaroli a joué un rôle décisif et a vu avant tout le monde quelle était l'importance de Philostrate.
Alors moi, ce qui me frappe, c'est que le Philostrate qui est le nôtre, c'est celui de Vigenère, c'est-à-dire que c'est par la traduction que nous le connaissons, et là, il faudrait insister sur ce rôle de translation, de transfert, de passage. Marc Fumaroli était un grand Européen, et le fait qu'il était toujours entre les cultures a certainement mis Philostrate parmi les auteurs qu'il devait rencontrer, parce qu'il y a connexion entre le passé, et le passé très lointain, et son passé à lui, et puis entre deux mondes aussi, de langues, et je pense que ce Philostrate fallacieux, puisque illustré même par des gravures, ce qui est vraiment le scandale absolu pour un texte qui normalement pratique plutôt l'ekphrasis, et ce Philostrate traduit, c'est une manière justement de montrer la vitalité que donne parfois, je dirais la trahison, une forme de trahison qui est celle de l'appropriation. Et je pense que la découverte de Philostrate est très caractéristique des deux éléments que j'ai voulu mettre en évidence. Je vous assure, cher Michel Zin, qu'il n'y a pas de perfidie. C'est que mon idée, c'est qu'il n'y a pas de grand livre sans engagement, et il n'y a pas d'engagement sans prise de risque. Et je pense que Marc Fumaroli...
Oui. Des deux mains et des deux pieds, vous
savez. D'accord. Et je pense que Marc Fumaroli était un professeur et un intellectuel engagé. Alors, je n'ai pas osé le mot parce qu'il y a des consonances du terme qui, de nos jours, gêneraient. Mais je pense qu'il y avait deux pôles dans son esprit. Il y avait une érudition éblouissante, un art de découvrir. Je me souviens qu'à la suite d'un cours au Collège de France, je suis allé lui dire un jour, à citer le nombre d'auteurs dont je n'ai jamais entendu parler, je suppose que vous les inventez. Il m'a dit, oui, j'en invente la moitié. Bon, il était vraiment un découvreur, quoi, c'est extraordinaire. Et en même temps, il était audacieux et il n'avait aucune hésitation à prendre des engagements où entrait, c'est ce que j'ai essayé de montrer, une part vraiment vivante de lui-même, c'est-à-dire une part de risque, de goût, de détestation, il faut bien dire, car l'inverse du goût, c'est la détestation, et ça fait partie aussi des choses. Et l'art qu'il avait, c'était de connecter les deux. Parce qu'évidemment, nous connaissons certains de nos collègues qui sont d'excellents savants, par exemple sur La Fontaine, on pourrait en citer, mais sans vraiment de prise de risque ou de thèse, si l'on peut dire. Puis il y en a d'autres qui sont des gens à thèse et qui prennent des engagements sur les auteurs. C'est merveilleux à lire, mais parfois on se demande si c'est fondé. Chez lui, il y avait la capacité d'alliancer les deux. Et ce que je trouve de plus beau, par exemple, dans cette thèse sur le poète et le roi, c'est d'avoir exhumé ce texte de Boissat sur l'Olympe et le Parnasse. Qu'est-ce que vous voulez ? Au premier abord, on se dit, oh, c'est peut-être un peu lire La Fontaine uniquement par un angle. Il y a peut-être autre chose que la volonté de résister à Louis XIV dans l'écriture des fables. Et puis arrive ce texte qui vous laisse pantois. Et on adore ce genre de choses parce que quand on le lit, il y a évidemment un conflit qui s'établit, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord. Et en même temps, on est fasciné, on est séduit. Et je dirais que c'est ce jeu qu'il nous invite à faire avec nous-mêmes qui fait qu'il se survit et qui fait que nous sommes ici. Parce que ces livres lui survivent d'une façon qui n'est pas une façon seulement rhétorique, parce qu'ordinairement on peut dire ça, oui, les livres... Non, les siens survivent parce que... Ils nous suscitent, ils nous atteignent, et je pense que le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est d'essayer de montrer en quoi on a toujours envie de ses réponses, de lui poser des questions, qu'il soit là, il n'y a plus que les livres pour répondre, et heureusement, ce merveilleux ouvrage complètement inattendu, que moi aussi j'ai reçu il y a deux jours, et où on le sent en dialogue avec lui-même et avec, c'est merveilleux, trois époques. Donc c'est encore plus beau, c'est deux spectres le plus large, et une liberté vraiment absolue, puisqu'il parle de tout.
Merci.